What's up, Doc?
Et ce matin, dans What's Up Doc, on va parler cardiologie, cardiopathie, la semaine d'après, la semaine de sensibilisation cardiologique Chirec. Nous accueillons aujourd'hui le docteur Emmanuel Caté, cardiologue au Chirec Braine-l'Alleud. Docteur Caté, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors, on va s'intéresser cette année, on s'était déjà parlé l'an dernier, on avait parlé des troubles du sommeil liés aux problèmes cardiovasculaires. Cette année, vous allez nous parler de la fibrillation auriculaire. Alors, la première question, elle est simple, elle est basique. C'est quoi la fibrillation auriculaire précisément ?
Bien, la fibrillation auriculaire, c'est un trouble du rythme cardiaque, donc un problème du circuit électrique du cœur. Alors, il y en a beaucoup. Celle-là, c'est la plus importante dans le sens où c'est un trouble du rythme qui est très fréquent. Ça touche environ 1% de la population générale. Et ça consiste au fait d'avoir un rythme du cœur qui est complètement anarchique, avec une arythmie qui est... originaire d'une partie du cœur qui s'appelle l'oreillette. Le problème de cette arythmie, c'est qu'elle peut entraîner des AVC par la formation de petits caillots sanguins au niveau des cavités cardiaques qui peuvent éventuellement migrer au niveau cérébral si le cœur se met à pomper un petit peu plus fort ou se met à se re-régulariser.
Bien, alors là, on a fixé le cadre. Vous le disiez, ça concerne un peu plus ou moins 1% de la population. Alors à la louche, ça fait quand même un peu plus de 100 000 personnes touchées en Belgique chaque année. Est-ce que ça concerne plutôt les hommes, les femmes ? Et est-ce que les enfants aussi, quand je dis les enfants, c'est bien sûr les enfants par définition, mais aussi les ados peuvent être concernés ? Ou à partir de quel âge selon les statistiques ?
Alors c'est l'arythmie atriale qui est la plus fréquente. En effet, 150 000 Belges environ. Ça augmente avec l'âge. Les sujets de plus de 80 ans, il y en a environ 10% qui ont de la fibrillation auriculaire permanente. Mais c'est une arythmie qui peut venir et qui peut repartir. Et on estime que sur sa vie, un Belge en moyenne a une chance sur 4 d'avoir cette arythmie. Alors ça touche les sujets de manière plus importante avec l'âge. L'âge, c'est le facteur déclenchant, le facteur favorisant le plus important. De même que les mauvaises habitudes, le problème de sédentarité, le problème de tabac, d'alcool, diabète, etc. Très rare chez les enfants en dehors de problèmes de cardiopathie congénitale.
D'accord.
Et donc ça arrive surtout chez les gens à partir de 50, 60, 60 ans environ.
D'accord. Alors les risques encourus sont-ils létaux ? Je veux dire par là, est-ce que il faut vraiment avoir une hygiène de vie adaptée dès lors qu'on a cette cardiopathie, si je peux m'exprimer ainsi, ou bien si on a une hygiène de vie tout à fait stable et tout à fait correcte, on ne sera jamais atteint par la fibrillation auriculaire.
Alors il y a deux questions dans votre question.
C'est
une des questions fréquentes, c'est est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave. J'ai envie de dire c'est entre les deux, c'est moyen. C'est grave dans le sens où le risque d'AVC est multiplié par 5. Des AVC qui sont dus aux caillots qui sont formés dans la cavité cardiaque, pas les AVC qui sont dus aux artères qui se bouchent à cause de plaques d'athérome. C'est grave dans le sens où c'est associé à un cœur qui pompe un petit peu moins bien, de l'ordre d'une quinzaine de pourcents. C'est associé à plus de démence. Après, c'est pas une arythmie qui va tuer les gens, comme une arythmie ventriculaire qui s'appelle la fibrillation ventriculaire, qui est à ne pas confondre avec la fibrillation auriculaire dont on parle aujourd'hui. Et c'est une arythmie qui, si elle est bien traitée, bien gérée, est tout à fait bien supportée, et il y a même des gens qui ne sentent rien.
Bien, alors parfait, vous l'évoquiez à l'instant, et pardon de vous interrompre, mais vous disiez si elle est bien traitée, donc c'est qu'il y a un traitement existant, et quel est-il ?
Alors le traitement, il est double. Donc je vous ai dit qu'il y avait des caillots qui se formaient et la première question à se poser chez quelqu'un chez qui on découvre une fibrillation auriculaire, c'est est-ce qu'il faut l'anticoaguler ou pas, c'est-à-dire lui donner des médicaments qui vont rendre le sang plus fluide de manière à éviter la formation de caillots. La deuxième, et donc cette question, on répond à ça avec un score, mais dans la grande majorité des cas, il faut, oui, donner un médicament anticoagulant. La deuxième question, c'est face à cette arythmie, est-ce qu'il faut que je ralentisse l'arythmie ou est-ce que je dois remettre le cœur régulier? Alors ça, si on décide de ralentir le cœur, c'est des médicaments type bêta-bloquant qui ralentissent le cœur. On fait ça surtout chez les gens qui sont plus âgés, qui ne ressentent pas leur arythmie, qui ont une cardiopathie forte, avancée, et pour lequel il y a un risque très important qu'ils repassent en arythmie si on les remettait en rythme régulier. Maintenant, la deuxième stratégie pour le rythme du cœur, c'est de remettre le cœur régulier. Alors là encore, les médicaments peuvent permettre de maintenir un cœur régulier. Il y a aussi le choc électrique qui fait un peu un reset. C'est pas un choc électrique qui est donné comme quand on a un arrêt cardiaque. Enfin, c'est le même, mais c'est pas pour la même cause. Là, c'est pour remettre le cœur régulier. Et la dernière stratégie, qui est une stratégie un petit peu plus à long terme, s'appelle l'ablation de l'arythmie. C'est un peu un terme mal donné parce qu'on va rien retirer, on va juste aller brûler le court-circuit électrique de manière à obtenir sur le long terme un rythme du cœur régulier. Et pour ça, on passe par les vaisseaux des jambes et on atteint le circuit électrique du cœur.
Bien. Alors, j'imagine que monsieur, madame, tout le monde, on est tous tôt, à un moment ou à un autre atteints par de la tachycardie, des extrasystoles, etc. Comment est-ce que le citoyen lambda peut-il faire la distinction entre la fibrillation auriculaire dont on parle ce matin, avec la fibrillation ventriculaire, avec la tachycardie, avec la maladie de Bouvray, avec toutes ces, je dirais, ces pathologies entre guillemets qui se ressemblent finalement pour, enfin me paraît-il. Pour le patient?
Bon, c'est une question qui est assez large parce que c'est tout un énorme chapitre, les arythmies du cœur. Pour ce qui est de la fibrillation auriculaire, on a une sensation de cœur qui est complètement irrégulier. Ça, c'est pour la sensation. On peut également le sentir quand on sent son pouls. Et puis ça se diagnostique en allant régulièrement chez le cardiologue ou chez son généraliste. Voilà. Et les symptômes qu'on a en dehors de ces palpitations avec le cœur qui est complètement irrégulier, ce sont des sensations de type fatigue, essoufflement anormal, parfois des douleurs thoraciques. Le problème, c'est que dans un tiers des cas, on ne ressent pas cette arythmie. D'où l'intérêt du dépistage et des check-ups réguliers.
Et justement, encore une fois, je suis qu'un citoyen lambda, je m'étais laissé dire par exemple qu'un électrocardiogramme ne pouvait pas prévenir un infarct ou une crise cardiaque longtemps à l'avance, que parfois quelqu'un va faire un électrocardiogramme qui se révèle excellent et puis que deux jours ou trois jours après, eh bien c'est l'accident cardiovasculaire. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr et pour pouvoir prévenir ce genre de choses?
Alors là, c'est un autre chapitre de la cardiologie, c'est le problème des artères du cœur, pas d'électricité. Mais c'est tout à fait vrai. Un infarctus, c'est une plaque qui va se détacher des artères du cœur et qui va boucher cette artère avec une coagulation qui va se former au niveau de l'artère du cœur. C'est vrai qu'on peut faire des tests à l'effort, qui est un des tests les plus fréquents qu'on demande pour la prévention, le diagnostic, et faire quand même des infarctus après. Ces tests ne sont pas fiables à 100%. Il y a des tests qui sont plus sensibles, plus spécifiques que le test à l'effort. Mais vous savez, c'est vrai aussi pour la fibrillation auriculaire. Il faut tomber au moment de l'arythmie. Il y a des gens qui ont de la fibrillation auriculaire qu'on appelle paroxystique, qui revient. On se plaint de symptômes et il faut tomber au moment de la fibrillation auriculaire pour la diagnostiquer. Mais pour le problème de l'infarctus, il faut écouter ces plaintes, ces symptômes, et il faut faire le test adéquat et avoir une bonne hygiène de vie également, bien sûr.
Bien. Écoutez, tout ça, évidemment, est extrêmement vaste, comme vous le disiez. Et pardon d'être un petit peu trop large dans mes questions, peut-être, mais c'est quand même intéressant. Quand vous disiez on doit tomber pile dans le moment de la fibrillation auriculaire pour pouvoir la diagnostiquer, j'y arriverai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est de la chance d'être à l'hôpital au moment où vous l'avez, ou bien quand vous avez une crise chez vous, comment est-ce que vous, le cardiologue à qui on téléphone, vous allez pouvoir diagnostiquer à distance ou en disant venez, mais de pouvoir dire avec certitude que c'est qu'il s'agit d'une fibrillation auriculaire.
Bon, il y a des gens qui, il y a différentes formes. En fait, là, je parle des formes qui viennent et qui reviennent. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont ça en permanence. Donc, quand ils viennent avec leurs symptômes et qu'on fait l'électrocardiogramme, ça se voit tout de suite. Mais il y a des gens qui ont des fibrillations auriculaires qui sont paroxystiques, qui viennent, qui repartent. Et donc, dans ces cas-là, on leur met des appareils qui permettent d'enregistrer pendant une plus longue durée l'électrocardiogramme et d'avoir plus de chances de tomber dessus. Mais des fois, on ne tombe pas dessus. Et de plus en plus, moi, j'ai des gens qui viennent avec des montres connectées et certaines ont des logiciels qui permettent d'avoir l'électrocardiogramme et d'enregistrer des épisodes de fibrillation auriculaire qu'on n'aurait pas forcément vu autrement, parce qu'ils l'ont en permanence sur eux et qu'on a un temps plus important d'enregistrement.
Ah ben donc voilà, ça s'avère non seulement efficace, mais alors en plus, vous nous dites maintenant que ces montres sont fiables au niveau de l'électrocardiogramme, ou en tout cas de ce qu'ils nous donnent en termes de pulsation et en termes de paroxystie ou non, c'est bien ça?
Oui, certaines montres sont tout à fait fiables. C'est pas le pouls, hein, c'est le tracé. C'est oui. Celles qui ont un tracé électrocardiogramme incorporé.
Eh ben, c'est bon à savoir. Merci beaucoup, docteur Katé. Je rappelle que vous êtes cardiologue au Chirec à Braine-l'Alleud. Merci de nous avoir un petit peu éclairé sur ces différentes cardiopathies, notamment celles dont on parle ce matin, c'est-à-dire la fibrillation auriculaire. Je vous souhaite une bien belle journée et à l'année prochaine, pour en tout cas au minimum, puisque chaque année, on sait que vers la fin du mois de septembre, il y a une semaine de sensibilisation à la cardiologie, si je ne m'abuse. Merci beaucoup, docteur. Très bonne journée à vous. Prenez bien soin de vous.